29 avril 1961. Aphorisme numéro 59.
59 qui est comme ça. Un des grands réconforts de la religion est que parfois vous pouvez empoigner Dieu et lui donner une satisfaisante raclée. Les gens se moquent de la sottise des sauvages qui battent leur Dieu lorsque leurs prières ne sont pas exaucées, mais ce sont les moqueurs qui sont sots et sauvages. Alors, pauvre Tarakuté. Que veut dire donner à Dieu une satisfaisante raclée? Comment est-ce que c'est possible? Ça, je n'ai pas répondu encore. Et puis alors, il a ajouté une autre chose. Beaucoup de gens disent que les enseignements de Chemin sont une religion nouvelle. Est-ce que toi, tu l'appelleras religion? Alors, tu comprends, moi j'ai commencé à fumer.
Oui, évidemment.
J'ai écrit. Ceux qui disent cela sont des sots, qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Il suffit de lire tout ce que Aurobindo a écrit pour savoir qu'il est impossible, souligné, de baser une religion sur cela. Oh, je me suis trompée dans mon... Puisque pour chaque problème, chaque question, il présente tous les aspects en montrant la vérité contenue dans chaque approche, et il explique que pour atteindre la vérité, il faut effectuer une synthèse qui dépasse toutes les notions mentales. Émerger dans une transcendance au-delà de la pensée. Ta seconde question n'a donc pas de sens. D'ailleurs, si tu avais lu ce qui a paru dans le dernier bulletin, tu n'aurais pas pu la poser. Je répète que lorsque nous parlons de chez Aurobindo, il ne peut être question d'enseignement ni même de révélation, mais d'une action du suprême. Sur cela, aucune religion ne peut être fondée. Ça, c'est le premier coup de feu, tu sais, comme ça. Second, les hommes sont si fous, ça ne va pas mieux, qu'ils peuvent changer n'importe quoi en une religion, quand ils ont besoin d'un cadre fixe pour leur pensée étroite et leur action limitée. Ils ne se sentent en sécurité que lorsqu'ils peuvent affirmer ceci est vrai et cela ne l'est pas. Mais cette affirmation devient impossible à quiconque a lu et compris ce que Aurobindo a écrit. La religion et le yoga ne sont pas situés dans le même plan de l'être, et la vie spirituelle ne peut exister dans sa pureté que si elle est libre de tout dogme mental. Ça, c'est un peu plus calme. C'est pas très précis. Je te l'ai apporté au cas où.
Il est bien nécessaire de faire comprendre ça aux gens.
N'est-ce pas, c'est indispensable.
C'est indispensable. Ils sont toujours à l'ashram même, ils sont prêts à...
Ce qu'ils disent, ce sont des gens de l'ashram.
Ils sont aussi sectaires qu'un catholique, un protestant.
Oui, la même chose. La même chose. Et c'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris. Mais ça, comment est-ce qu'on fait donner une raclée à Dieu? Ça, c'est amusant, non?
Oui, c'est amusant. Mais qu'est-ce qu'il a entendu au juste?
Je veux dire donner à Dieu une satisfaisante raclée. Comment est-ce que c'est possible? Ce que Shri Aurobindo a voulu dire, c'est ça que tu demandes. Un des grands réconforts de la religion, que parfois vous pouvez empoigner Dieu et lui donner une satisfaisante raclée. Tu as le texte anglais. Nous l'avons peut-être un peu, vulgarisé.
Je me souviens, le mot anglais est beating, good beating.
Beating?
Oui, je me souviens.
Ah, alors c'est bien ça.
Non, on n'a pas. It's satisfactory, Betty.
N'est-ce pas, la religion a toujours tendance à c'est pas humaniser, c'est à faire un dieu à l'image de l'homme. Une image magnifiée et agrandie, mais c'est toujours un dieu, au fond, qui a des qualités humaines. Et ça crée une sorte d'intimité, de proximité. N'est-ce pas? Elle l'a pris à la lettre. Il est vrai que même les Espagnols, n'est-ce pas, quand leur Dieu ne fait pas ce qu'ils veulent, ils le prennent et ils le jettent dans l'arrière. Mais il y a des gens ici qui le font. Je connais des gens qui avaient chez eux une statue de Kali. Et il leur arrivait, c'était la divinité de leur famille, et il leur arrivait toutes sortes de calamités, et la dernière génération est devenue furieuse, a pris l'idole et l'a jetée dans le Gange. Et quand c'est marché, et ils ne sont pas seuls, il y en a plusieurs, et il y en a un qui m'a demandé la permission avant de le faire. C'est cette façon de faire un dieu à l'image de l'homme, non? C'est ça qui vous donne la possibilité de le traiter comme vous traiteriez un ennemi humain. Ça va être long à dire.
Mais ces idoles, ce ne sont pas seulement des créations humaines. Elles ont une existence en soi. Ces idoles, ce ne sont pas seulement non plus des créations humaines.
Les idoles?
Oui, elles ont une existence
non,
en soi. N'est-ce Kali.
Pas... Non, ici, ils ont. Et ça, c'est une. J'ai eu des révélations à ce point de vue-là, très intéressantes, sur la façon de penser et de sentir des gens. Je me souviens d'une de ces occasions, c'était quelqu'un qui avait fait une petite statue de chez Obindo. Il m'avait donné un ventre, et enfin pour moi, quand je voyais ça, c'était ridicule, n'est-ce pas? Et j'ai dit, comment est-ce que vous pouvez faire une chose pareille? Et alors on m'a expliqué que même si pour l'œil ordinaire, c'est une caricature, une image faite d'après celui que l'on considère comme Dieu ou comme un Dieu ou comme un avatar ou celui que l'on adore, même ne serait-ce qu'un gourou, ça contient l'esprit et la force de sa présence. Et ça, on l'adore, même dans la forme grossière, même si c'est une forme, n'est-ce pas, tout à fait, pour l'œil physique, tout à fait caricaturale. Il y avait quelqu'un qui avait fait une grande peinture de chez Obindo et de moi. On l'a apporté ici pour me la montrer. J'ai dit, oh, c'est affreux. C'était, n'est-ce pas, pour l'œil physique, c'était affreux. Il dit, c'est affreux, on ne peut pas garder ça. Alors immédiatement, il y a quelqu'un qui me l'a demandé et qui a dit, je vais l'ériger dans ma maison et je ferai mon worship devant. Alors j'ai dit, comment vous pouvez ériger une chose qui est... C'était pas tellement laid que d'une banalité effroyable. Je vois quelque chose de si banal et de si vide. Elle dit, oh, pour moi, c'est pas vide. N'est-ce pas? Ça contient toute la présence et toute la force. Et je l'adore comme la présence et la force. Et alors, il y a, c'est, tout ça, c'est basé sur cette vieille idée que, quelle que soit l'image, ce que nous appelons dédaigneusement une idole, qu'est-ce que soit l'image de la divinité, il y a toujours quelqu'un, que ce soit un prêtre ou un initié ou un sadhu ou un sannyasi ou quelqu'un qui a le pouvoir et qui tire, généralement, n'est-ce pas, c'est la besogne des prêtres, qui tire la force, la présence dedans, et ça c'est véritable, n'est-ce pas? C'est une chose tout à fait réelle, que la force, la présence est là. Et alors, vous, c'est ça, ce n'est pas la forme de bois ou de pierre ou de métal que vous adorez, c'est cette présence. Ça, c'est ce que les Européens n'ont pas le sens intérieur du tout. Pour eux, tout est comme ça, c'est une surface, n'est-ce pas, une pellicule de surface, et il n'y a rien derrière. Alors, ils ne peuvent pas sentir. Mais c'est un fait. Ça, c'est un fait absolument réel. Et ça, je le garantis, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai des petites choses de métal ou de bois ou d'ivoire qu'on m'a donné de certains dieux. Il suffit que je le prenne dans la main pour que le dieu soit là. J'ai des ganèches. On m'a donné beaucoup de ganèches. Ganpati. J'en ai beaucoup. Je le prends dans ma main, je le regarde une minute, il est là. J'en ai un à côté de mon lit, là où je travaille, là où je mange, là où je médite, n'est-ce pas? J'en ai un, petit comme ça, qu'on m'a donné. Et puis il y a un Narayan qui vient de la montagne Himalaya. Là.
Kailash?
Oui. j'ai un Aryan, ils sont tous les deux, ils me servent de, comment dire, de presse-papier sur mes mouchoirs. J'ai mes mouchoirs, là, sur un petit tabouret à côté de lit, et sur eux, j'ai une grande poitrine et une Aryan. Et personne n'y touche, excepté moi. Et c'est moi qui enlève mes nouveaux mouchoirs, les remets dessus. Et Ganpati, quand une fois je me suis fait moi-même de la pâte pour les ongles, avant de la mettre sur mes ongles, j'en ai mis sur son front, sur son estomac et au bout de ses mains. Et nous sommes en très bon terme, très amicaux. Alors pour moi, n'est-ce pas tout ça, c'est très vrai. Seulement. Il y avait même. Il y avait. C'était. Ce n'a rien été d'abord. C'était Tara qui me l'avait rapporté de Bretagne. Alors je l'ai mis là et je lui ai dit de rester là et d'être satisfait, content. Et c'est quelque temps après que quelqu'un d'autre m'a apporté un très joli gant. Et alors j'ai demandé à Narayan, je ne lui ai pas demandé sa permission, mais je lui ai dit, tu sais, tu ne vas pas être fâché, je vais te donner un compagnon, je vous aime tous les deux, il n'y a pas de préférence. L'autre est beaucoup plus joli, mais toi tu es Narayan. Je l'ai flatté. Je lui ai dit des choses aimables, il était parfaitement content. Mais pour moi, ça a toujours été comme ça. Toujours. Et je n'ai jamais eu le sens religieux, tu comprends? Ce que les gens appellent cette espèce de... qu'ils ont dans les religions, surtout en Europe. Cette espèce de... le mot anglais, oh, comme une sorte de terreur. Ça m'a toujours fait rire. Mais ce qui est derrière les présences, je l'ai toujours senti. Je me souviens d'être entrée une fois dans Notre-Dame, parce que j'aimais beaucoup Notre-Dame. Je trouvais que c'était un très bel endroit. Je suis entrée dans Notre-Dame, c'était pas un jour de fête, ni de cérémonie, c'était vide. Il y avait une, deux, trois personnes, n'est-ce pas, qui étaient en prière. Alors, je suis entrée, puis je me suis assise dans une petite chapelle. Oh, puis tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui était en prière, là. Ça devait être quelqu'un qui avait des misères, qui a pleuré et prié. J'ai vu, il y avait une statue, je ne sais plus de qui, si c'était du Christ ou de la Vierge ou d'un saint, je n'en sais rien. Mais à la place de la statue, j'ai vu une araignée énorme, comme les tarentules. Mais comme ça, formidable, qui couvrait tout le mur de la chapelle, et qui était là, comme ça, pour avaler toutes les forces vitales des gens qui venaient. C'était douloureux, je me suis dit, voilà. Il y avait ça, cette personne qui était misérable, qui était venue chercher secours, qui pleurait là, et qui priait, qui espérait avoir un secours, et au lieu que ça aille à une conscience au moins compatissante, ça faisait la nourriture de ce monstre. J'ai vu autre chose, j'ai vu d'autres choses, mais j'ai les églises Et j'ai rarement vu quelque chose de très favorable. Ici, je me souviens quand je suis allé à Maïlon. On m'a fait entrer à Maïlon. On m'a reçu d'une façon tout à fait inaccoutumée. J'étais présenté par quelqu'un on avait beaucoup de considération pour lui et il m'a présenté comme un grand saint. Alors on m'a reçu numéro un. Et je suis arrivé et on m'a amené jusqu'à l'hôtel central, où généralement on n'amène pas les gens. Et puis qu'est-ce que je vois là? Un asura. Oh, pas d'une très haute portée, plutôt rakshasa qu'asura. Mais enfin, c'était plus qu'un rakshasa. Mais un de ces monstres affreux qui était là. Alors, moi, je pensais qu'il allait se passer quelque chose. Et c'était très venu, et il s'est déplacé, il était là, enfin, il s'est déplacé, il est venu à moi, il a essayé de m'intimider, mais tu comprends, c'était... il a vu que c'était inutile. Alors il m'a offert une alliance, il m'a dit ne dis rien, ne fais rien, et je partagerai avec toi tout ce que je reçois. Je l'ai envoyé promener. Il y avait le chef, c'est un motte, n'est-ce pas? Ils ont un monastère et puis le temple, tout ça. Ça représente une richesse considérable. Et celui qui est à la tête en a la jouissance pendant tout le temps qu'il est à la tête et une fois qu'il est nommé, c'est pour la vie. Seulement, il est obligé de nommer son successeur. Et alors, généralement, la vie est raccourcie par le successeur. C'est comme ça que ça se passe. Et celui-là qui était là, tout le monde le savait qu'il avait considérablement raccourci la vie de son successeur. Et c'était un homme qui était aussi assouri que le Dieu qu'il adorait. J'ai vu des pauvres bougres qui se jetaient à ses pieds. Il devait leur avoir, n'est-ce pas? Les avoir serré la vis quelque part, n'est-ce pas? Il demandait pardon et pitié et tout ça. Il était absolument sans merci. Mais il m'a reçu. Fallait voir. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit que c'était ça. Je n'ai rien montré. Mais j'ai pensé, voilà. Il y a une autre ici. Où est-ce que c'est? Un petit côté là. C'est à la maison des. Le village des pêcheurs, là. Comment ça s'appelle? Le village des pêcheurs, après Ariane Coupon. On va à Rion-Coupon, puis on tourne et on va au bord de la mer. Il y a un village des pêcheurs.
Il y a Arikamedou. Là. Arikamedou?
Non. Ça commence par un V, je crois. Enfin, ça ne fait rien, ça reviendra. Mais il y a là un temple qui est à une Kali. Une Kali. Oh, hein. Une terrible Kali, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais il a été enterré. Il y a juste sa tête qui sort. Une histoire abracadabant. Et je ne connaissais pas l'histoire, je ne connaissais rien. Je l'ai en voiture depuis Ariane-Coupon jusque-là. Et à mi-chemin, voilà une forme noire et comme ça agitée qui se précipite vers moi. Et qui me demande mon aide. Et il me dit, je t'offre tout ce que j'ai, toute ma puissance, toute l'adoration des gens, viens m'aider pour que je devienne toute puissante. Alors je lui dis, naturellement, je lui ai répondu comme il fallait. Et après, j'ai demandé qu'est-ce que c'est que cette personne. Alors, on m'a dit qu'elle était enterrée. Qu'il m'était arrivé un malheur quelconque, elle était enterrée, qu'il n'y avait que la tête dehors. Et tous les ans, il y a une fête de ce village de pêcheurs, et on y extermine des milliers de poulets. Elle aime les poulets. Alors on lui extermine les poulets, des milliers de poulets. Il les plume sur place, la place est couverte de plumes. Et puis naturellement les gens les mangent parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle pense. Après il y a l'avoir offert le sang et le sacrifice, il mange le poulet. Et alors je suis arrivée un jour, ça s'était passé le matin, c'était une litière de plumes, c'était dégoûtant. Et elle me demandait mon aide. Mais ce qui est curieux, c'est que ce sont des êtres du vital, n'est-ce pas? Mais ils ont cette conscience. Ils ont cette conscience. Moi, je ne connaissais rien, ni de l'histoire, ni de la personne, ni de sa tête qui sortait. Elle voulait que je la tire. Et comment ils sentent l'atmosphère? Comme ce... N'est-ce pas, ils sont conscients, ils ne peuvent pas être conscients dans les hauteurs, ils sont conscients vitalement. Seulement du pouvoir vital, n'est-ce pas, de la force vitale que ça représente. Comme cet Asura, n'est-ce pas, quand je suis entré, c'était comme si tout d'un coup il tremblait sur son, n'est-ce pas. Alors, il est sorti de son idole et puis il est venu me demander. Mais c'est curieux. Dans les églises, je ne sais pas. Je n'y suis pas entrée souvent. Je suis entrée dans des mosquées, je suis entrée dans des temples juifs. Ça, les temples juifs, ils ont une si belle musique à Paris. Oh, quelle belle musique. Bah, c'est dans un temple que j'ai eu une de mes premières expériences. C'était un mariage. La musique était admirable. J'étais en haut avec ma mère. N'est-ce pas, il y a toutes les places en bas et puis il y a des places, il y a des galeries. Et j'étais en haut avec ma mère, et la musique, c'était... On m'a dit après que c'était de la musique de Saint-Saëns. Avec l'orgue, c'était le second orgue de Paris. Admirable. Avec l'orgue, on jouait cette musique. Et puis j'étais en haut comme ça, j'avais 14 ans. Et il y avait des vitraux blancs. N'est-ce pas, il n'y avait pas de dessin, mais des vitraux blancs. Et il y en avait un que je regardais, lorsque tout d'un coup, à travers ce vitrail, entre, c'était, n'est-ce pas, j'avais cette impression d'être soulevé comme ça par la musique. Entre un éclair comme un coup de foudre, n'est-ce pas, comme la foudre. Entrée comme ça, j'avais les yeux ouverts, cette entrée, puis, comme ça. Et alors, je sentis que si on devenait immense et tout puissant. Et ça a duré pendant des jours. Naturellement, Dieu merci, ma mère était matérialiste à tout craint, qu'on ne pouvait pas lui parler même des choses invisibles parce qu'elle pensait que c'était une preuve de dérangement cérébral, qu'il n'y avait rien qui comptait, seulement ça, qu'on touche et qu'on voit. Alors c'était... Ça, c'était une grâce divine, je n'avais l'occasion de rien dire. J'ai gardé ça pour moi. Mais ça a été un des premiers contacts avec une j'ai su après, n'est-ce pas, que c'était une entité passée qui était rentrée en moi, si je veux, à cause de l'aspiration qui venait de la lumière. De la vie. Mais dans des églises, j'ai rarement eu une expérience. J'ai eu très souvent cette expérience très douloureuse de, n'est-ce pas, de cet effort humain de trouver un réconfort supérieur, une compassion divine, et que ça tombait en de très mauvaises mains. Très souvent, j'ai eu une de mes plus terribles expériences à Venise, dans les églises, les cathédrales sont si belles là-bas. C'est si magnifique. Et je me souviens, je faisais une peinture. Je faisais de la peinture dans un coin. On m'avait laissé m'installer pour peindre. Et c'était près d'un... Comment est-ce qu'on appelle ça? Un confessionnal. Il y avait une pauvre femme qui était misérable. Oh. Avec un si affreux sens du péché, oh, c'était si lamentable. Elle pleurait. Et puis alors je vois le prêtre qui arrive. Oh, c'était comme un monstre. C'est un monstre de dureté. Il est entré là-dedans comme ça, et c'était comme une barre de fer. Et alors cette pauvre femme sanglotait. Et la voix de l'autre était « Dieu sait ». J'ai toutes les peines à rester tranquille. Ça, c'est, je ne sais pas pour quelle raison, mais cette expérience-là, je l'ai eue si souvent. Ou une force adverse, n'est-ce pas, qui se cachait là derrière, et qui absorbait tout. Ou bien l'homme qui abuse du pouvoir. Sans merci. En fait, dans le monde entier, j'ai eu comme ça. Jamais été en très bon terme avec la religion. Ni en Europe, ni en Afrique, ni au Japon, ni même ici. Je me souviens quand j'avais 18 ans et à ce moment-là, il y avait un besoin si intense de savoir. Parce que les expériences, je les avais. J'avais eu toutes sortes d'expériences, mais à cause du... À cause du milieu dans lequel je vivais, je n'avais eu aucune occasion de recevoir une connaissance intellectuelle de tout ça. J'avais pas pu en parler, j'avais eu des expériences et des expériences, n'est-ce pas? Pendant des années, la nuit, j'avais des expériences. Mais je me gardais bien d'en parler. Et toutes sortes de souvenirs de vies antérieures, toutes sortes de choses. Sans base de connaissances intellectuelles du tout. Naturellement, l'avantage, c'est que c'était rien qui avait été fabriqué mentalement. C'était tout à fait spontané. Mais j'avais en moi un besoin de savoir. Je me souviens, j'habitais dans une maison, ces maisons, il y a des tas d'appartements, il y avait dans l'appartement voisin, il y avait des jeunes gens qui étaient très catholiques et qui avaient une foi très... Ils étaient très convaincus. Et alors, je voyais ça et je me souviens qu'un jour, comme ça, quand j'étais à ma toilette, j'étais en train de me coiffer, je me disais, ils en ont de la chance, les gens qui sont nés dans une religion et qui croient sans discuter, comme c'est facile, hein. Il n'y a plus qu'à croire et puis c'est très simple. Sentez comme ça. Et alors, quand je me suis aperçu que je pensais comme ça, bien, je me suis donné une bonne raclée. Savoir. N'est-ce pas, je savais rien que les choses de la vie ordinaire, la connaissance extérieure. J'avais appris tout ce qui m'avait été donné d'apprendre. J'apprenais non seulement ce que l'on m'enseignait, mais ce que l'on enseignait à mon frère, les mathématiques supérieures et tout ça. Et japonais. C'était rien, c'était pour moi, c'était comme ça. Rien ne m'expliquait, rien. Je ne pouvais rien comprendre. Savoir. Ça m'est arrivé après. Quand j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de l'enseignement de Théon, c'était 2 ans après. Quand on m'a dit qu'il n'y avait que le divin, qu'il y avait la présence, l'enseignement du Gita, mais n'est-ce pas mis dans des mots que les Occidentaux peuvent comprendre, qu'il y avait la présence intérieure, qu'on portait le divin dans le propre. C'était en, n'est-ce pas, en quelques minutes, tout d'un coup, tout compris. Ça a donné le contact instantanément.
Quelles que soient ses apparences, ses araignées vitales ou ses calies affreuses, le divin agit quand même à travers, aide les gens à travers ça. Tout de même. C'est pas totalement absorbé et perdu, non.
Non, mais alors c'est différent, n'est-ce pas? C'est ce... C'est ceux qui sont capables d'une expérience personnelle, alors là, ils passent à travers tout. Mais pas le troupeau. J'ai eu des discussions. Pas de discussions, mais enfin des échanges de. Échanges de vie. Avec des prélats. Il n'y a qu'avec un cardinal, alors là, c'était... Je lui ai dit mon expérience, c'est-à-dire ce que je savais. Alors il m'a dit que vous le vouliez ou non, vous appartenez à l'Église. Parce que ceux qui savent appartiennent. Il m'a dit, vous savez ce qu'on nous enseigne quand nous devenons cardinaux. Il dit, moi, personne ne m'a rien enseigné, c'est mon expérience. Et alors, il m'a dit ça, que vous le vouliez ou non, vous appartenez à l'Église. J'avais envie de lui dire, sauté, je n'ai rien répondu. Mais autrement, on rentre comme ça. Oh. Pris par la force, bouclé par la force. Oui, oh oui, il y avait à Pau un brave homme de curé. Il avait une église, une toute petite cathédrale, qui voulait, c'était un artiste. Il voulait la faire décorer. Il a demandé à un anarchiste local de la décorer. C'était un grand artiste, cet anarchiste. Et cet anarchiste connaissait le père d'André et moi. Et il lui avait dit, je vous recommande ces gens pour faire les peintures. Lui, il faisait la décoration murale. Et il y avait des panneaux, et il y avait 8 panneaux, je crois. Je vous recommande ces gens pour faire la peinture, parce que ce sont des vrais artistes. J'ai travaillé à une... Ça, c'était une église de Saint-Jean de Compostelle, qui avait une histoire en Espagne, qui avait apparu dans une bataille entre les chrétiens et les morts, et parce qu'il avait apparu, les morts étaient vaincus. Et il était magnifique, il avait apparu en lumière dorée sur un cheval blanc, presque comme le... ici... Calpi. Et il y avait tous les morts en bas qui étaient tués. C'est moi qui ai peint les morts tués. Et qui se débattaient. Parce que je ne pouvais pas grimper, il fallait grimper très haut. Il fallait monter tout en haut des chaînes pour peindre, c'était trop difficile. Les choses qui étaient en bas. Mais enfin, tout ça, c'était très bien, on avait apporté les peintures là-bas. Et on les avait mises en place. Et alors, naturellement, ils nous avaient reçus, ils nous avaient donné un dîner à l'anarchiste et à nous. Et il était si gentil. C'était vraiment un bon. Et moi, j'étais déjà végétarienne. et je ne buvais pas. Et alors il m'a très gentiment grondé. Il m'a dit, mais tout ça, c'est notre Seigneur qui nous le donne, pourquoi ne le prenez-vous pas? Je l'ai trouvé charmant. Il était charmant. Et quand il envoyait les peintures, il tapait sur l'épaule de Maurice et il lui disait que Maurice était un incroyable. Mais vous avez beau dire, vous connaissez, il avait l'accent du midi, vous avez beau dire, vous connaissez notre Seigneur, autrement vous n'auriez pas pu peindre comme ça. Il était très hein. Enfin voilà. Bref. J'ai connu des gens partout. J'étais partout, j'ai vu tout, j'ai entendu tout. C'était très curieux. Et sans le faire exprès. Comme ça. Parce que le Seigneur l'a voulu. Que d'expérience. Voilà mon petit. Maintenant, il va falloir que j'aille voir cette dame. J'ai bavardé, ça a été une crise. Alors ça, je le remporte, ce sera pour une autre fois. Alors le 2, je te vois le 2. Je n'ai pas encore fait mon programme, je voulais le faire ce matin, puis je n'ai pas pu. C'est une espèce de monticule de lettres comme ça, dans un fouillis, aucune ordre, et puis des gens qui, lettre après lettre, un besoin urgent de me voir. Je pensais ce matin faire mon programme, mais j'ai pas pu. Je pensais que nous ferions ça et j'ai bavardé.
Oui, mais tu as donné un élément de réponse, là. Hein? Il y a beaucoup de choses là-dedans qui pourraient être prises pour...
Oui?
Ce que tu as dit au début, en tous les cas.
Bon, tu me le notes?
Oui, oui, je
ça noterai. Ça gagnera du temps?
Oui, je noterai tout ça. Je noterai ce qui est... Je ferai deux choses séparées.
Ah oui, 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 surtout. Non, puis tout ça, je ne tiens pas à ce que ça soit conservé. Parce que c'est beaucoup trop personnel et il est question de beaucoup de gens et de beaucoup de choses que je ne vais pas faire. Je te l'ai raconté, c'est tout. Tu le gardes pour toi. Pas même pour la jeune, c'est pas nécessaire. Si ça t'amuse, peux le garder, c'est tout. C'est même pas nécessaire. Je te l'ai dit comme ça parce que j'avais envie de garder pour moi.
Je noterai la partie.
Je pourrais dire beaucoup d'autres choses qui se passent le contraire de ça, mais pas ça dépend. Ça dépend de l'orientation. Si je me mettais à bavarder, tu sais, j'aurais l'air, je ne sais pas quoi, quelque chose comme d'un fou, parce que, non, je pourrais dire les choses les plus opposées avec la même sincérité et la même vérité. Et les expériences, j'ai eu les expériences les plus contradictoires. Il n'y a qu'une chose qui a été continue depuis mon enfance, c'est que plus je vois que c'était continu comme ça. C'était cette présence divine. Avec extérieurement quelqu'un qui aurait très bien dit, Dieu, qu'est-ce que c'est que cette année, ça n'existe pas. Ouais, tu comprends? Alors tu vois le tableau. Tu sais, c'est une grâce merveilleuse, merveilleuse d'avoir eu cette expérience si constante, si formidable, comme ça, commune. C'est une chose qui résistait à tout, cette présence. Avec dans ma conscience extérieure une négation totale de tout. Même plus tard, je disais, eh bien, si Dieu existe, c'est un vrai brigand, c'est un misère. Je n'en veux pas de ce Dieu-là. Qui nous a créés. Tu sais l'idée du Dieu qui est assis tranquillement dans son ciel et puis qui fait le monde et puis qui s'amuse à le regarder, qui vous dit après comme c'est bien fait. J'ai dit ce monstre-là, j'en veux pas. Voilà, mon petit. Je te vois plus au balcon, tu viens pas ou...
Moi, je suis abruti un peu.
Tu es abruti.
Je m'excuse. Non, j'ai un travail. Oh. Dans 4-5 jours, ça y est.
Non, c'est pas pour te dire de venir, c'est pour savoir si par hasard je ne te trouve pas. Tu es là et je ne te trouve pas.
Je pourrais venir, mais je suis un peu...
Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire.
J'en ai encore pour 5 ou 6 jours de travail, comme ça. Encore 5 ou 6 jours. Et dans 5 ou 6 jours, ce sera fini. Tu sais, c'est le livre.
Qu'est-ce que c'est?
Le livre de Pavitra. C'est un gros travail. Enfin, je sens ta force, parce qu'autrement, je...
Bon. Non, quand je te vois pas là, je... Non, moi là-bas. Alpaque. Un peu comme ça. Je me dis exactement ça, il doit être abruti.
Je fais un travail de la tête.
Ça, c'est formidable.
Énorme.
C'est formidable.
Ça va être fini, non?